Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 20 Azar, 1401 du calendrier iranien, 11 décembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique. Téhéran condamne la déclaration anti-iranienne du Conseil de coopération du Golfe Persique. La République islamique d'Iran condamne les allégations non fondées soulevées dans la déclaration du Conseil de coopération du Golfe Persique. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Et le Hamas appelle l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale à mettre un terme aux crimes israéliens. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. La République islamique d'Iran condamne les allégations non fondées soulevées dans la déclaration conjointe des membres du Conseil de coopération du Golfe Persique et la Chine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que la déclaration n'était rien d'autre qu'une refonte des politiques ratées visant à promouvoir l'iranophobie. Il dit que de telles actions sont une vaine tentative de dissimuler les actions provoquant des tensions de certains États du Conseil de coopération du Golfe Persique qui offrent un soutien financier, politique et logistique aux groupes terroristes. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, les politiques destructrices de certains États membres ont infligé des pertes humaines et financière à toute la région. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran pour la poursuite des propos interventionnistes de responsables britanniques sur les développements internes du pays. Dans un communiqué, le ministère a déclaré qu'il avait également protesté contre le soutien du Royaume-Uni au terrorisme et aux émeutes et sa décision d'imposer des sanctions à la République islamique d'Iran pour sa réponse aux émeutes. Le communiqué indique que les efforts des médias basés au Royaume-Uni pour inciter aux émeutes ne les mèneront nulle part et engendreront plutôt la haine du peuple iranien envers Londres. Le communiqué indique que l'Iran se réserve le droit naturel de répondre aux sanctions anti-iraniennes. le Royaume-Uni a à plusieurs reprises condamné la République islamique d'Iran pour ses actions contre les émeutes et le vandalisme, accusant Téhéran d'avoir organisé une répression contre les manifestants pacifiques. Londres a imposé plusieurs séries de sanctions à des individus et entités iraniens en invoquant des prétextes similaires. Téhéran a mis en garde les États-Unis contre leurs efforts pour annuler l'adhésion de la République islamique d'Iran à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, dénonçant cette tentative comme étant politiquement motivée. L'envoyé de l'Iran à l'Organisation des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a déclaré que la décision des États-Unis était contraire aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Il a déclaré que si la poussée américaine réussissait, cela créerait un précédent dangereux au sein de l'organisme mondial. Iravani a noté que l'effort des États-Unis est enraciné dans de fausses déclarations et des allégations non fondées. Iravani a souligné que l'initiative illégale est une nouvelle tentative des États-Unis d'abuser de l'Organisation des Nations Unies dans le sens de ses propres objectifs politiques. Il a averti que toute initiative de ce type serait contraire à l'essence même des Nations Unies. Des émeutes soutenues par l'étranger ont éclaté en Iran en septembre après la mort de Mahsa Amini, qui s'est évanouie dans un poste de police à Téhéran et est décédée quelques jours plus tard à l'hôpital. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a appelé l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale à mettre un terme à l'escalade des crimes israéliens commis en Cisjordanie occupée et à Qods. Le mouvement a lancé cet appel dans une déclaration à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Le Hamas a déclaré que le monde devrait aider à mettre fin au blocus injuste imposé à la bande de Gaza et permettre au peuple palestinien de se défendre par tous les moyens possibles jusqu'à la fin de l'occupation. Le régime israélien a récemment intensifié sa répression meurtrière contre les Palestiniens. Jusqu'à présent, les forces israéliennes ont tué cette année près de 220 Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et enfin, l'Ukraine continuera d'exporter des céréales depuis la ville portuaire méridionale d'Odessa, malgré les récentes attaques russes visant les infrastructures énergétiques locales. Le ministère de l'Agriculture affirme que les commerçants sont confrontés à des problèmes, mais pour l'instant, il n'est pas question de suspendre les exportations. Selon le président Volodymyr Zelensky, la dernière série de frappes a laissé plus d'un million et demi de personnes sans électricité dans la région d'Odessa. L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde. Il a repris ses expéditions en juillet après un arrêt de 6 mois causé par la guerre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné samedi 10 décembre les remarques anti-iraniennes présentées dans la déclaration conjointe publiée par la Chine et les États membres du Conseil de coopération du Golfe Persique, les considérant comme faisant partie d'une politique iranophobe ratée de ce Conseil. La déclaration, publiée vendredi 9 décembre à l'issue du 43e sommet du Conseil à Riyad, a coïncidé avec la fin de la visite officielle du président chinois Xi Jinping dans le royaume saoudien. Aussitôt, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a dénoncé cette déclaration, la qualifiant d'une tentative vaine des membres du Conseil de dissimuler leur soutien financier, politique et logistique aux groupes terroristes actifs dans la région. Le haut diplomate a évoqué les énormes pertes matérielles et humaines infligées aux peuples de la région à la suite des politiques destructrices d'un certain nombre de membres du Conseil de coopération du Golfe Persique, exhortant le Conseil à revoir ses approches envers les problèmes régionaux et à adopter une politique constructive envers la région. Dans leur déclaration, les membres du Conseil de coopération du Golfe Persique ont affirmé leur soutien à ce qu'ils ont appelé les efforts des Émirats arabes unis pour parvenir à une solution pacifique aux différends sur les trois îles iraniennes du Golfe Persique, à savoir Abu Moussa, la Grande Tombe et la Petite Tombe, sur lesquelles les Émirats arabes unis formulent une réclamation non fondée. Les trois îles stratégiquement positionnées font partie de l'intégrité territoriale de l'Iran. D'innombrables documents historiques, juridiques et géographiques, aussi bien à l'intérieur du pays qu'ailleurs dans le monde, en sont la preuve. Nasser Kanani a de nouveau souligné la position de principe de l'Iran sur les îles qu'il qualifie de partie inséparable du territoire de la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran considère toute revendication sur les îles comme déstabilisante et comme un exemple d'ingérence dans ses affaires intérieures, ainsi que de violation de sa souveraineté territoriale, et la condamne fermement, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. En outre, la déclaration du Conseil de coopération du Golfe Persique a prétendument accusé l'Iran de constituer une menace pour la sécurité des voies navigables internationales et des installations pétrolières. En réponse à cette affirmation, Kanani a déclaré que les forces armées de la République islamique d'Iran sont déterminées à préserver la sécurité maritime des eaux régionales et que de telles déclarations ne pourraient pas ébranler leur détermination à protéger la sécurité de leur pays et de la région. Dans une autre partie de ses propos, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que l'ambassadeur de Chine à Téhéran avait été invité au ministère des Affaires étrangères après la publication de la nouvelle sur la participation du président chinois au sommet du Conseil de coopération, lors duquel la nouvelle déclaration anti-iranienne a été publiée. La République islamique d'Iran a exprimé son extrême mécontentement face à l'approche interventionniste adoptée dans la déclaration finale du Conseil de coopération du Golfe Persique, qui vise l'intégrité territoriale de l'Iran, a affirmé Kanani, en réitérant l'appartenance indéniable des trois îles du Golfe Persique à l'Iran. Comme toute autre partie du territoire iranien, les trois îles n'ont jamais fait et ne feront jamais l'objet de négociations avec aucun pays, a-t-il déclaré. Réagissant à la nouvelle, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Hossein Amir Abdollahian, a dénoncé la déclaration hostile du Conseil de coopération du Golfe Persique, réaffirmant dans un tweet que les trois îles du Golfe Persique font partie intégrale du territoire du pays et que la République islamique d'Iran ne transigera jamais sur son intégrité territoriale.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Débat du jour. En effet, ce mercredi, l'Assemblée générale des Nations unies a voté contre Israël et a exigé Israël à renoncer à ses armes nucléaires et à adhérer à l'accord de TNP. Mais est-ce que vraiment Israël commencera et acceptera à renoncer à ses armes nucléaires? En effet, ce vote de l'Assemblée générale des Nations unies a été conclu à une majorité écrasante. 149 membres ont voté pour et 6 pays contre cette résolution. Comment pourrait-on interpréter ce vote de l'Assemblée générale des Nations unies? Quelles en seront les conséquences pour Israël? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos deux experts. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant à la destruction des armes nucléaires du régime sioniste. Mercredi soir 7 décembre, hors local, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la résolution visant à détruire les armes nucléaires du régime sioniste par 149 voix pour et 6 voix contre. Le régime sioniste et les États-Unis, le Canada, la Micronésie, les Palaos et le Libéria ont voté contre cette résolution. 26 pays, dont l'Ukraine, l'Inde et de nombreux gouvernements européens, se sont abstenus. Auparavant, la première commission de l'Assemblée générale des Nations unies avait appelé à la destruction des armes nucléaires du régime sioniste et à la mise en place d'une surveillance internationale des installations nucléaires du régime de Tel Aviv par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Malgré ces armes nucléaires, le régime sioniste n'a jamais voulu l'admettre officiellement. Le régime sioniste est l'un des rares membres des Nations unies à avoir refusé de signer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le projet de cette résolution a été soumis à la première commission de l'Assemblée générale à la suggestion de l'Égypte, qui a été approuvée par les votes positifs de 152 pays et l'opposition de 5 pays, dont le Canada et les États-Unis, ainsi que les abstentions de 24 pays, pour la plupart membres de l'Union européenne. Le régime sioniste est l'un des 9 États qui possède des armes nucléaires dans le monde et le seul déteneur d'armes nucléaires dans la région de l'Asie occidentale, qui, selon les rapports, conserve entre 200 et 400 ogives nucléaires dans son arsenal.
De retour sur le plateau, nous sommes en ligne avec deux juristes internationaux, Maître Atem, Elie Atem, également Maître Arnaud Develet. Je vous dis bonjour messieurs, merci de nous avoir accordé votre temps. Alors Maître Atem, si vous voulez bien, on commence avec vous. Merci d'être avec nous pour ce débat. Alors cette résolution, Maître, appelle Israël à renoncer à ses armes nucléaires et donc à mettre fin à la prolifération d'armes nucléaires. Dans un premier temps, comment interprétez-vous cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies? Est-ce que vraiment Israël renoncera à ses armes nucléaires, à votre avis?
Merci de votre invitation. Il faut peut-être rappeler la raison pour laquelle cette résolution a-t-elle été établie et puis passée au vote. Parce qu'il faut commencer par, je dirais, le début, par le commencement. Oui. L'État d'Israël, comme nous le savons tous, cette entité, comme vous l'avez dit, sioniste, c'est une entité artificielle qui a profité des pires atrocités qui ont été commises lors de la Seconde Guerre mondiale à l'encontre des communautés juives ashkénazes en Europe, et s'est imposée en créant cet État en 1949. Il faut rappeler le sentiment de culpabilité qui pesait au niveau international, ce qui a permis à cette entité de s'ériger en État. Or, cet État s'est transformé en État, il faut le dire, terroriste, qui a d'une part occupé, bien entendu, la Palestine d'une manière totalement illégale. Donc, c'est une entité artificielle qui est une sorte de regroupement, de ramassis, je dirais, de populations, de communautés, et je passe les différents détails. Mais surtout, elle est complètement illégale, illicite, puisqu'elle occupe un territoire, mais aussi elle commet des actes internationalement illicites, ce qui conduit la société internationale. Vous vous rappelez tout d'abord la résolution des Nations Unies qui a été abrogée en 1990 et qui considérait, ou 91, qui considérait que le sionisme est une forme de racisme. Il y a eu tout un lobbying pour changer et retirer en fait cette résolution, mais aujourd'hui on se rend compte du danger que cette entité donc présente sur place, surtout maintenant avec les dernières élections qui ont permis à M. Benjamin Netanyahou d'être élu à la tête du pouvoir exécutif donc, de cette entité, et qui a véritablement une menace. Donc aujourd'hui, la menace, ce n'est pas l'Iran, la menace vient d'Israël, surtout que l'Iran a adhéré d'ailleurs à ce traité, et c'est en vertu de son adhésion à ce traité qu'il y a eu toute cette polémique et ces négociations sur le nucléaire. En revanche, Israël n'a pas adhéré à ce traité. Pourquoi ? Parce qu'il se considère, grâce à son alliance avec les États-Unis, comme étant au-dessus des lois, comme étant que tout lui est permis. Il viole le droit international. Il y a une pléthore, plus d'un millier de résolutions que cette entité ou cet État, pour certains, n'a jamais respecté. Il y a eu des occupations, des violations, par exemple, du Liban, des frontières libanaises, qui ont été dénoncées à l'époque courageusement par le général de Gaulle, mais depuis, la société internationale n'ose même plus critiquer ouvertement cette attitude illicite. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a un danger effectif. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette résolution qui prend en considération le danger que présente Israël à la société internationale.
Merci pour vos explications. Je me tourne vers vous, Maître Develet. Merci d'être avec nous. Alors, Maître Atem a donné son point de vue. Vous, à votre avis, comment pourrait-on interpréter cette résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies ?
Bonjour à vous tout d'abord, et bonjour à toute l'équipe et à mon confrère Elie Atem. Écoutez, c'est un vieux serpent de mer. On sait très bien quelle est la situation au niveau de l'État sioniste et son programme nucléaire. L'État sioniste pratique ce qu'il appelle une stratégie, l'ambiguïté stratégique, à savoir il ne nie pas être en possession d'un programme nucléaire à vocation militaire, mais il ne l'admet pas ouvertement, justement pour que juridiquement ils ne soient pas amenés à ouvrir leurs installations à un régime d'inspection qui découlerait donc de leur signature au traité de non-prolifération. Et donc, ce faisant, effectivement, et je rejoins ce que disait Maître Atem, il se positionne exactement dans le prolongement de cet exceptionnalisme vis-à-vis du droit international. De par leur impunité dont ils bénéficient grâce au veto américain au Conseil de sécurité. Et force est d'avouer qu'on peut avoir toutes les résolutions prises à l'Assemblée générale des Nations Unies jusqu'à preuve du contraire. Et bien qu'on puisse s'en lamenter, eu égard au besoin de réformer les Nations Unies en tant que telles, les résolutions adoptées par l'Assemblée générale n'ont pas force de loi. Et malheureusement, c'est ce qui permet aux sionistes de faire plus ou moins tout ce qu'ils veulent et, si je puis dire, d'ignorer les milliers, effectivement c'est le cas, de résolutions qui ont été adoptées et ou proposées au Conseil de sécurité, mais ayant été confrontées au veto américain. Donc c'est une espèce de purulence qui n'en finit pas de se répandre dans la région, parce qu'effectivement, alors qu'on met la lumière sur le programme, soi-disant le programme nucléaire iranien, qui est un programme parfaitement légal, civil. La République islamique d'Iran a joué le jeu, a ouvert ses installations à l'Agence internationale atomique. Il y a eu même, et si on s'en tient au rapport compréhensif formulé tous les 4 ans par les agences de sécurité américaines, plusieurs fois des conclusions qui portaient sur le fait qu'il n'y a pas de programme nucléaire militaire en République islamique d'Iran, et que dès lors, toutes les jérémiades et autres gesticulations de quelqu'un comme Benjamin Netanyahou depuis maintenant une quinzaine d'années, de manière répétée, n'est qu'une façon pour l'État sioniste de faire obstruction et de ce qu'on appelle faire de la projection ce qu'on appelle de la misdirection en anglais, et ce faisant, d'éviter d'avoir les agences internationales se pencher sur le fait que la seule puissance en Asie occidentale qui possède ces armes, c'est l'État israélien, et que c'est un problème dans le sens où cet État pratique une politique expansionniste qui vise sa raison d'être à étendre ses frontières. On rappellera qu'il n'y a pas de frontières établies, il n'y a pas de constitution israélienne en tant que telle. Et donc, partant de là, c'est un État qui a vocation, s'il veut survivre, selon sa façon de voir les choses, à empiéter sur ses voisins et s'accaparer des territoires et étendre son influence. Si on ajoute à ça le chantage nucléaire, comme disait Moshe Dayan à l'époque, nous voulons que le monde pense de nous en tant que chiens enragés. Je vous laisse imaginer ce que ça laisse entendre.
Merci pour vos explications, Maître Develet. Restez en ligne. Alors, Maître Atem, Maître Develet a, comme tout comme vous, a expliqué cette politique ambiguë du régime sioniste en ce qui concerne ses politiques vis-à-vis de l'arme nucléaire. On se rappelle qu'à l'époque, il y avait aussi une résolution pour la création d'une zone de dénucléarisation au Moyen-Orient qui a été votée contre par les États-Unis, le Singapour et Israël. Comment pourrait-on interpréter ce deux poids, deux mesures, non seulement du régime sioniste dans la région et dans le monde entier, mais également des instances internationales, justement comme l'ONU?
Oui, il faut partir du principe selon lequel il y a une absence du droit international public, bien entendu. Surtout aujourd'hui, il y a une hégémonie. Et quand on parle donc de la règle internationale, le droit international en général, ça reste une pure théorie. Et on voit cela sur le terrain. Je vous donne un exemple. Les différentes sanctions qui sont distribuées par les États-Unis à l'encontre des pays. Donc c'est une pure violation du droit international. Aujourd'hui, il y a une, comme je le disais tout à l'heure, il y a une violation continue des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont une valeur obligatoire à l'encontre de l'État d'Israël. Ça n'a jamais été respecté. La même chose remarquée de la Turquie à l'encontre, donc les résolutions à l'encontre de la Turquie qui occupe le nord de Chypre, et en sachant que la Turquie, c'est un allié des États-Unis. Donc ça n'a jamais été respecté. Et plein d'exemples, nous avons vu l'invasion donc de l'Irak par les États-Unis. Et donc, il y a un élément qui est très important, c'est plus que deux poids et deux mesures. Il y a aujourd'hui des pays qui se permettent d'une manière hégémonique de commettre des actes internationalement illicites. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait mon confrère Arnaud Develet quand il a dit que Israël s'en moque du droit international, se moque également des Nations Unies, des résolutions donc des Nations Unies. Et puis je vous dis une chose, c'est que aussi, je dirais, l'appareil onusien est aujourd'hui sous la protection, sous le diktat américain depuis la fin du mandat du dernier, je dirais, véritable secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui a été empêché d'ailleurs d'être réélu à cause de sa critique contre l'entité sioniste, quand cette entité a commis des crimes de guerre dans la ville de Kanak, il y a eu une extermination totale de cette ville. Et quand Boutros Ghali avait critiqué cette opération d'une manière verbale et écrite, Madame Madeleine Albright lui a dit « Vous pouvez le faire oralement, mais pas du tout par écrit. » Et comme il a insisté de le faire oralement et par écrit, elle lui a dit textuellement « Ça sera votre dernier écrit aux Nations Unies. » Il y a eu toute une pression qui a été exercée sur lui pour l'évincer des Nations Unies, où la fameuse formule qui a été utilisée par lui, il voulait de moi un secrétaire et je m'étais érigé en général. Donc pour résumer, aujourd'hui c'est pas simplement deux poids et deux mesures, il y a simplement un seul poids hégémonique dans ce monde unipolaire qui est dirigé par les États-Unis. Et comme vous le savez, la politique étrangère des États-Unis est téléguidée par le principal ou les principaux lobbies qui pèsent sur la politique étrangère américaine, à savoir le AIPAC, le Anti-Defamation League, et donc ce lobby d'ailleurs pro-israélien et pro-sioniste. Alors, qu'il faut distinguer, bien entendu, des communautés juives. Il y a beaucoup de juifs, je dirais, qui sont anti-sionistes et contre cela, qu'on le pense d'ailleurs. Et puis, un dernier élément aussi important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a un espoir. Cet espoir vient de ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale, c'est-à-dire que la fin de ce monde unipolaire, téléguidé par les États-Unis depuis la conférence de Dayton qui a transformé les États-Unis en police du monde, et l'émergence d'un nouveau monde libre qui est constitué par la Russie, par l'Iran, par la Chine, par la plupart des pays donc, de la planète, les pays d'Afrique, les pays de l'Amérique du Sud, les pays du Moyen-Orient, les pays de l'Asie, donc tous en train de se regrouper ensemble pour renverser ce déséquilibre et faire revivre le droit international, autrement dit faire une application juste de la règle du droit international.
Merci beaucoup pour vos explications. Alors, Maître De Velay, nous savons très bien que ce sont les États-Unis et les pays européens qui soutiennent les politiques hégémoniques et destructrices d'Israël dans la région. Comment se fait-il que ce sont ces mêmes États-Unis et Union européenne qui critiquent sans cesse l'Iran pour ses activités pacifiques nucléaires, pour ses prises de position même internes et aussi extérieures? Comment pourrait-on interpréter encore une fois ce deux poids deux mesures occidental vis-à-vis de l'Iran et Israël?
Mais écoutez, je pense que c'est avant tout un signe extérieur d'une arrogance qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, la population mondiale qui est représentée par les États ayant par exemple récemment voté contre le fait de faire porter la responsabilité de la reconstruction de l'Ukraine par la Russie, c'est le 82% de la population mondiale. Donc essentiellement, quand on parle de l'Occident aujourd'hui, ou comme ils s'appellent eux-mêmes la communauté internationale, on parle en grosso modo de 15% de la population. Et ces 15% là sont maintenant, qui plus est, de par leur contradiction interne, sur une course qui les amène à se priver d'énergie bon marché, qui permettrait à leurs économies de rester compétitives, ce qui fait que maintenant, on va de plus en plus être confronté à une minorité nostalgique d'un pouvoir qui lui échappe pour la première fois depuis 500 ans, et qui, malgré tout, continue de penser qu'elle peut donner le là et donner des leçons au reste du monde quant à ce qu'elle considère être la norme. En fait, de plus en plus maintenant, les gens n'ont jamais été contre, par exemple, la mondialisation en tant que telle, mais l'aspect intrinsèquement américain de cette mondialisation. Les gens autour du monde ont accès maintenant à la technologie. Ils ont accès à une société d'abondance eux-mêmes et ils n'ont absolument pas l'intention de suivre des programmes dits d'énergie verte, par exemple, ou d'écologisme dément, qui visent à brider leur aspiration à procéder sur le chemin du développement pour leur peuple. Et je pense que c'est de plus en plus cette espèce de dissonance cognitive à laquelle nous allons assister, jusqu'au moment où, de toute façon, les Occidentaux, de manière générale, quand je dis les Occidentaux, ça inclut bien sûr les Néo-Zélandais, les Australiens et même quelque part un peu le Japon, mais ce sont maintenant des discours qui deviennent de plus en plus vides de sens parce qu'ils n'ont plus, encore une fois, ils sortent eux-mêmes de l'histoire, ils se sortent eux-mêmes de l'histoire pour des raisons que nous n'allons pas développer aujourd'hui, ça n'est pas le sujet, mais en tout cas, de plus en plus, ce discours n'a absolument aucune portée et ça se reflète de plus en plus dans les résolutions qui peuvent être introduites au sein de l'Assemblée générale, où on s'aperçoit en fait qu'ils parlent entre eux. C'est comme une espèce de chambre d'écho et personne ne les écoute.
Merci, Maître Develet. Alors, Maître Atem, nous avons évoqué ce discours hypocrite des instances internationales à la tête des États-Unis, le régime sioniste et aussi certains pays européens. Vous, comment interprétez-vous, comment analysez-vous ce discours hypocrite sur tous les dossiers, hein, à savoir, comme l'a dit Maître Develet, le dossier ukrainien, le dossier syrien, le dossier iranien, le dossier irakien. Donc, il y en a plein des dossiers où on voit un discours totalement hypocrite, en fait, des instances internationales et de l'axe occidental.
Qu'est-ce que vous entendez par les instances internationales ? Aujourd'hui, comme je le disais, les Nations Unies ne remplissent plus du tout leur rôle. C'est une organisation qui est devenue complètement désuète depuis la fin du mandat de Boutros-Ghali. Nous avons assisté à la mise en place, c'est même pas une élection, je dirais, à l'imposition donc de personnalités donc pour devenir les secrétaires généraux des Nations Unies, imposés par les États-Unis, parce que cette organisation a son siège, comme vous le savez, à New York, à deux pas donc de Washington, depuis Kofi Annan jusqu'aujourd'hui à M. Guterres. Et d'ailleurs, on ne voit plus cette personnalité de secrétaire général comme l'était Boutros-Ghali. Donc, il y a aujourd'hui une mainmise totale de la part des États-Unis sur les Nations Unies. Il y a une mainmise totale des États-Unis également sur l'OTAN. Et nous le voyons, nous le savons qu'aujourd'hui, l'Union européenne est également sous l'hégémonie américaine. Et il suffit que les États-Unis remuent un peu le bâton pour que les États, la plupart, je dirais, pour ne pas parler de l'ensemble donc des États de l'Union européenne, aient peur de ce bâton, en fait, américain. Souvenez-vous d'ailleurs le problème qui a eu lieu l'année dernière entre la France et l'Australie, quand l'Australie a résilié unilatéralement des contrats concernant les frégates ou les sous-marins avec la France, qui a suscité des déclarations de la part de la diplomatie française et du chef de l'État français à l'encontre donc d'une part de l'Australie, mais également à l'encontre des États-Unis qui étaient derrière cette manipulation. Et puis même la déclaration du président français qui est menacé de sortir de l'OTAN, qu'il avait d'ailleurs traité comme étant dans un état comatique. Eh bien, cela a suscité la colère du gendarme du monde, donc de la part de Washington. Et puis la France était obligée de retourner en arrière et d'obtempérer dans son discours. Et c'est la raison pour laquelle, non pas simplement les instances internationales, mais également les gouvernements qui sont inféodés à l'Union européenne, qui, elle, est sous l'hégémonie américaine, sont obligés d'obtempérer, de respecter l'ordre qui leur vient d'en haut. Et il faut rappeler une chose, en fait, aujourd'hui, les choses ont changé, mais comme l'a très bien souligné mon confrère Arnaud Develet, aujourd'hui, cette, entre guillemets, société internationale, ces instances dites, en fait, entre parenthèses, internationales, ne sont plus des instances internationales, ne représentent plus la véritable société internationale. Ils ne représentent qu'une infime minorité, comme il l'a très bien dit, 15% de la population mondiale ou planétaire. Et donc, d'un point de vue, je dirais, démocratique, ils ne sont que véritablement minoritaires. Et aujourd'hui, la véritable société internationale est majoritaire. C'est celle qui aspire à la liberté, c'est elle qui aspire à retrouver la souveraineté, le droit international. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, la Russie nous donne cet espoir-là. Et son initiative de bouleverser cet ordre international, grâce également à l'appui des différentes grandes nations qui veulent retrouver la règle, qui veulent, rétablir le droit international avec la Chine, avec l'Amérique latine, avec l'Afrique, avec la plupart des pays de l'Asie, avec le Moyen-Orient. Et donc, c'est notre espoir aujourd'hui de retrouver tout ce monde-là en train de constituer de nouvelles instances ou une nouvelle organisation qui va pallier l'organisation des Nations Unies qui sont sous l'hégémonie américaine et du fait de la situation donc de leur siège à New York, et puis sortir de cette dictature, je dirais, qui leur est infligée par la politique de Washington.
Merci. Alors, Maître Eli Hatem, Maître Arnaud Develet étaient avec nous pour ce débat du jour. Merci également à vous d'avoir suivi ce débat. Vous pourriez également revoir toutes les informations et toutes les émissions sur notre site web french.presstv.ir. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition d'Afrique Économie. Nous allons réviser les plus importantes évolutions économiques durant la semaine passée qui se sont passées dans le continent africain. Restez avec nous. Depuis quelques mois, les autorités guinéennes mettent en œuvre une série de mesures permettant d'accroître l'attractivité du secteur pétrolier local. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a donné jeudi 8 septembre le coup d'envoi des travaux de construction d'un terminal pétrolier dans l'enceinte du port de Takoradi, situé dans l'ouest du pays, un projet budgétisé à hauteur de 98 millions de dollars. La mise en place de l'infrastructure s'inscrit dans le cadre du plan de développement du port de Takoradi, l'un des plus importants du Ghana. Il vise à faciliter l'accueil des fournisseurs de services pétroliers et gaziers, des sociétés d'exploration et de leurs fournisseurs pour les activités de base de l'approvisionnement. Par ailleurs, il est prévu également la construction d'une cale sèche flottante d'un coût estimé à 137 millions de dollars. L'ensemble de ces travaux devrait permettre à terme de répondre de manière efficace aux exigences du secteur des services pétroliers et gaziers dans l'enclave portuaire de Takoradi, tout en rendant possible la réalisation d'opérations de maintenance sur des navires. Notons que le délai d'exécution du projet n'a pas été divulgué. Le peuple ghanéen et moi-même avons bon espoir que le projet de terminal pétrolier et de cale sèche flottante pour lequel je donne le coup d'envoi sera achevé dans les délais prévus afin d'éviter le dépassement de coûts, a déclaré le dirigeant ghanéen. En construction depuis plus d'une décennie, le nouvel aéroport de Luanda entre finalement dans les dernières phases avant son mise en œuvre. Le transfert progressif des opérations de l'ancien aéroport 4 février de Luanda vers le nouveau complexe aéroportuaire Agostinho Neto démarra à la mi-2023, annoncé le ministre des Transports Ricardo Dabreux. Ce planning permettra, selon lui, d'acter en décembre 2023 l'opérationnalisation effective du nouvel aéroport qui, à l'étape actuelle, connaît des travaux de finition ainsi que l'installation des équipements. L'aéroport Agostinho Neto est chaque fois plus une réalité. Nous sommes convaincus que d'ici un an, nous commencerons à voyager à partir de cet aéroport, a-t-il déclaré, ajoutant que le processus de certification suit son cours et devrait s'achever fin 2023 dans la période de sa mise en service. Lancée depuis 2007, la construction de cette infrastructure prévue pour traiter jusqu'à 15 millions de passagers par an a connu quelques années d'interruption, notamment de 2017 à 2021, en raison de plusieurs imperfections constatées dans les travaux réalisés.
Le nouvel aéroport érigé à environ 40 km au sud-est de Luanda fait notamment partie des projets clés du programme Aéropolis de Luanda qui vise à en booster l'urbanisation. Au Burkina Faso, la production d'engrais reste encore largement en dessous des besoins du secteur agricole. Cette situation qui entretient les importations expose le pays aux fluctuations du marché international. Au Burkina Faso, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole envisage de constituer un stock de sécurité d'au moins 100 000 tonnes d'engrais. C'est ce qu'a révélé Passa Manekre Zida, directeur général de l'organisme public, le jeudi 8 décembre. Cette initiative devrait permettre, selon le responsable, de garantir chaque année l'approvisionnement de façon sereine et pérenne en intrants de qualité à des coûts réduits des producteurs burkinabés. Il s'agit en outre d'un instrument qui vise à gérer la volatilité des prix sur le marché mondial. Le pays, comme plusieurs de ses voisins d'Afrique de l'Ouest, est touché depuis plus d'un an par une hausse globale des prix des intrants liés à l'appréciation des cours de l'énergie, la reprise économique et depuis février dernier par le conflit russo-ukrainien. Au Burkina Faso, l'utilisation d'engrais a atteint en moyenne 17,3 kg par hectare de terre cultivable en 2018 selon la FAO. Le pays a été le sixième consommateur d'engrais en Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Bénin avec plus de 255 000 tonnes en 2021 d'après les données du Centre international de développement des engrais. Pour rappel, l'agriculture contribue à hauteur de 18% au PIB et emploie environ 26% de la population active. Après les lourdes pertes subies en 2020, l'industrie africaine du transport aérien redécolle lentement, même si le continent reste très exposé aux difficultés macroéconomiques. La demande dans le secteur de passagers devrait croître de 27,4% l'année prochaine. Les compagnies aériennes africaines devraient réduire leurs pertes à 213 millions de dollars en 2023 contre 638 millions en 2022, a estimé l'Association internationale du transport aérien. Dans son rapport sur les perspectives mondiales du transport aérien rendu public le 6 décembre, le rapport révèle également que la croissance de la demande dans le secteur de passagers en Afrique devrait s'établir à 27,4% en 2023 et dépasser la croissance de 21,9% de la capacité. Au cours de l'année prochaine, la demande s'élèvera à 86,3% du niveau d'avant la crise sanitaire, alors que la capacité correspondra à 83,9% de celle d'avant la crise. Les compagnies africaines devraient cependant attendre 2024 et peut-être au-delà pour espérer renouer avec la rentabilité. Alors que l'Amérique du Nord sera la seule région à avoir retrouvé la rentabilité en 2022 et que les régions Europe et Moyen-Orient devraient sortir du rouge à partir de 2023. L'IATA souligne que l'Afrique est particulièrement exposée aux difficultés macroéconomiques qui ont accentué la vulnérabilité de plusieurs économies et rendu la connectivité plus complexe, citant notamment l'appréciation du dollar américain par rapport aux autres monnaies, l'envolée de l'inflation, la hausse des prix du carburant et le ralentissement de la croissance économique mondiale. À l'échelle mondiale, les pertes nettes de l'ensemble des compagnies aériennes devraient atteindre 6,9 milliards de dollars en 2022. Ces pertes sont toutefois nettement inférieures à celles de 42 milliards de dollars subies en 2021 et de 137,7 milliards de dollars enregistrés en 2020 dans un contexte de flambée de la pandémie du corona. En 2023, le secteur du transport aérien devrait renouer avec la rentabilité de l'échelle mondiale en dégageant des bénéfices cumulés de 4,7 milliards de dollars. Ce résultat représentera le premier profit depuis 2019, quand le bénéfice net de l'industrie était de 26,4 milliards. Cette embellie, qui devait se produire malgré les incertitudes économiques croissantes, découlera essentiellement de la hausse prévue du nombre de passagers, qui dépassera les 4 milliards en 2023, même s'il restera inférieur de 14,5% à son niveau d'avant pandémie.
Mm-hmm.